Je prie. Seigneur, merci parce que tu vas nous donner encore l'occasion de creuser la richesse de ce que tu nous as apporté. Merci Seigneur parce que il restera quelque chose dans nos cœurs, dans nos pensées à la sortie de ce culte et nous te le devons Seigneur. Oui, ouvre vraiment notre être tout entier à ta parole. Amen. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est la version seconde 21. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ça, c'est la Bible du Semeur. Voilà deux traductions différentes d'une parole du Notre Père qui nous interpelle sans doute davantage que la parole qui précède, directement dans cette prière initiée par Jésus, parole qui est « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Ça, ça nous interpelle moins. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de dire « Donne-nous notre pain quotidien » que « Pardonne-nous nos torts envers toi » comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous? Qu'est-ce que vous en dites? Mais alors, que penser de cette traduction littérale de l'araméen, langue alors parlée par Jésus, qui dit les choses ainsi? Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et c'est sur ce sujet du pardon, en effet, c'est de dettes qu'il s'agit. Celles que nous-mêmes nous contractons vis-à-vis de Dieu notre Père, d'abord, chaque fois que nous redevenons le centre de nos propres vies, que nous glissons, consciemment ou inconsciemment, vers des idoles de toutes sortes. Sur ce sujet du pardon, et en évoquant cette notion de dette, cette fois-ci à l'égard de nos frères et de nos sœurs dans l'Église, ou au sein du couple, ou de nos familles, de nos cercles de relations, nous savons que nous pouvons être tantôt créanciers des gens à qui l'on doit quelque chose ou débiteurs des gens qui doivent quelque chose. Tantôt victimes, tantôt auteurs d'actes volontaires qui ont pour effet de détruire une relation et qui créent ce fameux déséquilibre, cette forme de dette qui appelle donc une réparation, c'est-à-dire un pardon. Alors, c'est pas le fait de se marcher sur les pieds dans l'entrée de l'Église qui constitue une offense, mais c'est bien d'autres choses. Et sur le sujet de l'offense, il faudra sans doute que nous revenions un jour, parce que c'est un sujet en soi. Mais tenons-nous-en ce matin à la question du pardon, en laissant de côté le sujet important de l'offense. Nous lisons ce matin, comme texte d'appui, ce récit toujours surprenant du serviteur impitoyable. Alors, si la technique nous suit ce matin, voilà. En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait 60 millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître ordonna de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants, ainsi que tous ses biens pour rembourser la dette. Le serviteur se jeta alors aux pieds du roi et, se prosternant devant lui, supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout ». Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait 100 pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois !» Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi et je te rembourserai tout. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service, témoins de ce qui s'était passé, en furent profondément attristés et allèrent rapporter l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer ce serviteur qui avait agi de la sorte. « Serviteur mauvais, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Quel est le sentiment que cette histoire racontée par Jésus suscite en nous, là, maintenant ? Est-ce que c'est l'effroi par rapport aux conséquences que son attitude entraîne pour le serviteur qui est sans pitié ? Est-ce que c'est la satisfaction de voir d'une certaine manière tomber la sanction d'un comportement condamnable ? Bien fait, diront certains. C'est affreux ce qui lui arrive, diront les autres. Et chacun a, à sa manière, réagi à ce récit sous forme de parabole que Jésus fait aux disciples en petit comité. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il veut leur apprendre quelque chose sur le pardon, parce que pour lui, c'est un sujet tout à fait central. Et il va le devenir, il l'est dès le début, et il va le devenir dans la construction de l'Église, c'est-à-dire pour nous aussi. Alors au fond, pourquoi est-ce si important de pardonner ? Est-ce que c'est pas être faible que de parler sans arrêt de pardon ? Pourquoi, diront certains, toujours vouloir ainsi arrondir les angles ? Qu'est-ce qui peut motiver une telle attention au pardon ? La parabole que nous venons de lire, c'est communément ce qu'on appelle la parabole du serviteur impitoyable. Mais elle ne vient pas par hasard dans ce texte. Elle prend suite à un premier enseignement précisément sur le pardon où Jésus prépare les disciples à faire vie d'église dans le futur et aux relations entre frères et sœurs qui vont en découler. Et ce sont les versets 15 à 20 qui précèdent du chapitre 18 de Matthieu. Dans ce même chapitre, chapitre 18, et dans les deux qui suivent, chapitre 19 et 20, sont rassemblés des enseignements et des paroles de Jésus qui ont pour but de montrer en quoi le royaume qu'il est venu inaugurer inverse les valeurs qui ont cours dans la société. On parle à propos de ces chapitres, des chapitres du royaume inversé. En quoi ça consiste ? Eh bien, tout simplement, Jésus va y montrer qu'il faut apprendre à servir plutôt que d'être servi, que pardonner vaut mieux que chercher à se venger, et que donner vaut mieux qu'amasser des richesses. Royaume inversé. Et c'est assez perturbant pour ceux qui n'attendaient vraiment pas cela de la part d'un Messie, qu'ils rêvaient autrement, hein, comme leader politique juif. Alors, il ne faut pas s'étonner que juste après cet enseignement sur le pardon que nous avons évoqué, Pierre, le disciple, pose une question à la pierre, c'est-à-dire une question très pratique. Lisons ensemble. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irai-je jusqu'à 7 fois ?»« Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois. 10 fois 7 fois. Est-ce que vous le voyez ? En tout cas, moi, je le visualise, cet homme attachant, là, Pierre, qui est fait d'un seul tenant, hein, aussi entier dans son comportement qu'il peut être fragile, on le verra souvent dans les évangiles. Et lui, l'homme du concret, le pécheur, il veut des choses claires et carrées. Pardonner, d'accord, mais où elle est la limite ? Jusqu'où tout ça, ça nous amène ? Il ne faut pas trop rire de Pierre, parce qu'il a fourni déjà un bel effort dans son approche. Pardonner 3 fois, Dans le contexte culturel juif de l'époque, c'était déjà beaucoup. Alors si Pierre propose de pardonner 7 fois, c'est qu'il a déjà compris beaucoup, beaucoup de choses du contact de Jésus depuis le serment sur la montagne, où ce dernier avait déjà tellement insisté sur le sujet du pardon. 7 fois, c'est hors norme. Mais Pierre veut bien dépasser sa culture d'origine. C'est un homme de bonne volonté, il propose plus du double. Et la réponse de Jésus va le laisser sans voix, comme nous aussi d'ailleurs. 77 fois, 7 fois, ça veut dire très concrètement qu'il n'y a pas de limite. C'est un chiffre exorbitant et non, il n'y a pas de limite. Et Pierre, c'est ce que reçoit Pierre comme réponse, tu ne vas pas pouvoir compter le nombre de fois que tu accordes ton pardon. Le but, ce n'est pas de faire une comptabilité de tes pardons, mais de pardonner. Et alors, pour enfoncer le clou, Jésus raconte cette histoire du serviteur impitoyable que nous avons lue. Voilà dans quel contexte arrive cette parabole. Pourquoi pardonner ? Cette parabole nous donne déjà une première réponse, parce que pardonner, c'est imiter Dieu. On l'a lu, ce que le roi a fait à l'égard de son serviteur et ce que le serviteur a fait à l'égard de son compagnon, c'est tout à l'opposé. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Et imiter, en l'occurrence, ce n'est pas égaler le roi. Parce que, en la circonstance, l'éponge qui est passée sur la dette du serviteur, elle équivaut à 600 000 fois celle qui est due à ce serviteur. 600 000 fois. Donc, il ne sera jamais question d'égaler. Mais c'est au moins faire un geste de la même nature. Alors que les 100 pièces d'argent, elles ne sont même plus nécessaires. Il s'est vu éponger une telle dette. Qu'est-ce que c'est que ces 100 pièces d'argent par rapport à une dette 600 000 fois supérieure ? Eh oui, pardonner, c'est dans la nature de Dieu. Imiter le roi dans cette parole, imiter Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on imite quelqu'un que l'on admire, à qui on prête des caractéristiques qu'on peut désirer, et on aspire à être pareil, à faire la même chose. Et nous oublions souvent que la première inclination de Dieu, c'est de pardonner. Parce que Dieu se présente à Moïse sur le mont Sinaï, voilà comment il le fait. L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère et riche en amour et en fidélité. Je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je pardonne le crime, la faute et le péché, mais je ne tiens pas le coupable pour innocent et je punis la faute des pères sur leurs descendants jusqu'à la 3e et même la 4e génération. On voit bien que dans cette présentation que Dieu fait de lui-même à Moïse, il y a les deux aspects. La justice, je ne tiens pas le coupable pour innocent, et le pardon. Et il n'y a aucun voile pudique qui est jeté sur le crime, sur la faute, sur le péché, et les conséquences parfois durables que ça peut avoir. Et pourtant, l'amour est conservé jusqu'à la 1000e génération. Donc, la première inclination de Dieu, c'est le pardon. Et cette 1000e génération, il faut le lire comme 70 fois 7 fois, c'est-à-dire à l'infini. Lorsque Dieu s'adresse dans un autre passage par la voix d'Ézéchiel à la communauté d'Israël, c'est encore cette inclination au pardon qui est soulignée. Dis-leur, aussi vrai que je suis vivant, le Seigneur l'Éternel le déclare, je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Je désire qu'il abandonne sa conduite et qu'il vive. Détournez-vous de votre mauvaise conduite. Pourquoi devriez-vous mourir, gens d'Israël ? Je ne prends aucun plaisir à la mort du méchant. Et lorsque nous pardonnons, nous imitons Dieu. Jésus ne le dit pas autrement lorsqu'il déclare dans son sermon sur la montagne « Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui et vous ne serez pas vous-même jugé. Gardez-vous de condamner les autres et à votre tour, vous ne serez pas condamné. Pardonnez et vous serez vous-même pardonné. Oui, pardonner, c'est dans la nature de Dieu. Par contre, pour nous, ce n'est pas vraiment naturel. Ça n'est pas dans notre nature au départ de pardonner. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? Cette question, c'est sans doute la bonne question. Alors, on pourrait la comprendre comme une invitation, une injonction qui est finalement difficile à honorer. Mais le serviteur pourrait dire, ben oui, bien sûr, maintenant que j'ai pris un peu de recul, j'aurais pu faire autrement, mais je dois reconnaître que dans cette situation, j'ai tout simplement pas été capable, spontanément capable de pardonner. Et la question qui se pose alors, c'est qu'est-ce qui peut nous rendre capable de ce pardon qui n'est pas naturel pour nous ? Et je crois que la réponse, c'est sans aucun doute vivre toujours, chaque jour, plus près du Père. On imite ce dont on est proche. C'est la proximité qui nous permet d'augmenter la qualité de notre imitation. Voilà ce que dit, dans un passage bien connu, Paul. L'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour, il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, et là, le ton change, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. Voilà notre ligne d'horizon. Et nous savons que nous ne pouvons pas l'atteindre sans la grâce de Dieu quotidienne. Pour imiter quelqu'un dans ses gestes, dans sa façon de faire les choses, il faut vraiment bien le connaître, il faut bien l'observer. Et pour devenir de bons imitateurs de Dieu dans son pardon, il nous faut mieux le connaître et comprendre que ce pardon, il est enraciné dans son amour. Seigneur, c'est toi qui nous rends capables de pardonner. Alors cette parole du serviteur impitoyable elle nous donne une deuxième clé quant aux raisons de pardonner. Nous le savons, nous pardonnons parce que nous-mêmes nous l'avons été. Une dette énorme vient à peine d'être remise au serviteur et il fait comme si rien ne s'était passé. Il y a une étrange amnésie dans ce texte qui tout d'un coup, entre le moment où il sort de la pièce, il est dans le lieu plus public, quelle mémoire de poisson rouge. Vous savez qu'on attribue une mémoire au poisson rouge de 3 secondes. Ça veut dire que quand il fait le tour du bocal, le paysage est toujours nouveau pour lui, quoi. Et le monde apparaît comme au nouveau. Et là, ce serviteur, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en 3 secondes, il est devant un monde nouveau, un autre monde. Aucune trace de ce qui vient de se passer. Alors, il ne faut pas se moquer du poisson rouge, hein, parce qu'il peut arriver que nous ayons aussi la mémoire courte, nous aussi. On oublie assez facilement que notre dette a été effacée. On a fait le tour du bocal et hop. Alors, à cet égard, notre parabole aujourd'hui, elle en dit très peu, hein, comment cet apurement de la dette s'est produit. Mais quand même, il y a des mots-clés. Il y a une initiative, il y a d'abord l'initiative du roi qui fait appeler le serviteur et qui provoque la rencontre. Et puis, il y a la défaillance constatée. Le serviteur n'est pas au rendez-vous de ses engagements. La conséquence, elle est claire, il est insolvable, il ne peut pas rembourser. Eh bien, il va passer du statut de serviteur au statut d'esclave. Le jugement tombe. La justice tire la conséquence de la dette et condamne. Ça pourrait être la fin de l'histoire. Mais ça rebondit grâce à la compassion du roi et la justice est ici dépassée par l'amour. Et ça, c'est toute notre histoire à nous. C'est Jésus qui vient à la rencontre des hommes. C'est lui qui prend l'initiative, le mot clé. C'est Dieu qui prend les devants et qui dévoile par sa seule présence tout ce que les psaumes ont décrit comme désastre. Il n'y a point de juste, pas d'homme capable de comprendre, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous égarés, ils sont corrompus tous ensemble. Il n'y en a pas un qui fasse le bien, pas un seul. Ou encore l'auteur de l'Ecclésiaste. Pas joli le tableau. Non, sur la terre, il n'y a pas d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Et le deuxième mot-clé, c'est quoi ? C'est défaillance. Défaillance totale et de l'homme qui n'en a même pas conscience. Et alors, cette défaillance, c'est précisément ce que Jésus va révéler. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est ce qu'il rappelle aux pharisiens lors de l'épisode de la femme adultère. Jésus met la défaillance au grand jour. L'homme n'est pas au rendez-vous de ses engagements. L'homme n'est pas ce qu'il croit être. L'homme n'est pas ce qu'il prétend être. Il n'est pas créancier, il est débiteur. Et il pense tout le contraire. Et si cette défaillance-là appelle un jugement, quel sera-t-il ? Comment sera restaurée la justice ? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. La dette, c'est bien celle de l'homme, mais c'est Dieu qui la remet, qui la réduit à néant. La justice est satisfaite grâce à cette mort injuste. Et elle tire la conséquence de cette dette. Mais cette fois-ci, elle ne peut pas simplement être effacée. La différence, c'est que c'est Dieu lui-même qui la paye. La compassion et l'amour de Dieu, les mots clés de notre histoire, comme l'amour du roi dans la parabole, ont épargné le véritable débiteur. Oui, notre dette a été remise. Et si du moins nous comprenons le sens du sacrifice de l'innocent. Alors, est-ce que nous allons sortir, nous, de cette église, comme des serviteurs impitoyables, en cherchant, là, en venant d'entendre ce que nous avons entendu, celui qui nous doit quelque chose, comme le serviteur impitoyable ? Colossiens 3, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné ? Vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Pourquoi pardonner ? Voilà la deuxième réponse. Parce que pardonner, c'est se souvenir et reconnaître que nous-mêmes, nous avons été pardonnés. Et que nous sommes en quelque sorte des rescapés. Mais il y a une troisième raison. Et une dernière, nous pardonnons parce que c'est nécessaire pour nous pour vivre pleinement. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ça, c'est Matthieu 18, 35. Le récit de Jésus se termine sur cette parole, le récit du serviteur impitoyable, et j'aurais peut-être préféré pas forcément l'entendre. Vous avez remarqué d'ailleurs que je l'avais laissé de côté jusqu'à présent. Mais pourtant, c'est bien elle qui termine le passage. Jusqu'ici, le récit s'était bien passé. Avouons, le méchant était puni pour son incapacité à pardonner, alors que lui-même l'avait été. Notre besoin de justice était satisfait. Le coupable était désigné. Mais voilà que Jésus nous prend à contre-pied, encore une fois, comme il a pris à contre-pied les pharisiens avec la femme adultère. Et si je pensais, moi, m'en tirer à bon compte dans cette parabole, ce n'est pas le cas. Ce que dit Jésus dans cette conclusion de l'histoire, c'est ni plus ni moins qu'une question. Comment voulez-vous être pardonné si vous ne pardonnez pas vous-même de tout votre cœur ? C'est-à-dire complètement, comme votre Père sait le faire. Alors, c'est vrai que c'est notre façon de vivre désormais. Ça ne nous était pas naturel, disons-le. Mais pardonner, ce n'est pas une option, si je comprends bien ce que Jésus vient de dire aux disciples. Pardonner, ça fait désormais partie de ma manière de vivre, comme respirer m'est indispensable. Pardonner, c'est la condition même de mon propre pardon. Alors sur ce sujet, franchement, c'est frappant de voir comme Jésus est sans équivoque. Juste après avoir proposé la prière du Notre Père lors du sermon sur la montagne, c'est le sujet sur lequel il revient, et c'est le seul sujet sur lequel il revient après avoir proposé la prière, en disant « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Au moment où Jésus installe le royaume de Dieu, le pardon fait obligatoirement partie du paysage. Ce n'est pas une option. Comment puis-je espérer le pardon pour moi-même si je ne sais pas ce que cela coûte de pardonner ? Jésus insiste très fortement sur ce sujet, comme une explication de texte du Notre Père. Parce que pardonner, ça fait désormais partie de la condition même du disciple. Sans la proximité du Père, nous n'en serons pas capables. Mais nous savons que c'est un passage obligé pour vivre pleinement la vie qui nous est promise. Et il y a d'ailleurs plus encore, le pardon est important parce qu'il conditionne nos relations. Et là, c'est le fameux texte. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, tu reviendras présenter ton offrande. On l'a dit, hein, c'est pas une option. Et dans ce que dit Jésus ici, il est clair que notre relation avec Dieu, elle est directement affectée par l'état réel de nos relations entre frères et sœurs. Ce n'est pas dissociable. L'offense subie ou provoquée, elle atteint d'abord qui ? D'abord notre Père. Et Dieu ne fait pas comme s'il n'y avait rien, il ne fait pas semblant. Laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Il ne fait pas comme si. Dans la parabole que nous avons lue, vous vous souvenez que le premier blessé par l'attitude du serviteur impitoyable, c'est le roi. Et c'est bien un cœur de père qui est blessé. Par l'incapacité qu'ont des frères et des sœurs de se pardonner entre eux. Et souvent, on croit que l'horizon du pardon, ça se passe à l'horizontale. C'est entre les relations entre frères et sœurs. La dimension est horizontale. Mais en fait, nous oublions que la première victime, c'est celui qui est au cœur de ces relations. C'est notre Père. Et cette dimension à la fois horizontale et verticale de la relation, nous l'oublions trop souvent. Tout ne se passe pas à l'horizontale dans le pardon. Alors, les parents qui sont ici ou qui l'ont été, ou qui le seront, mais surtout ceux qui l'ont été, savent combien c'est, pour des parents, père et mère, c'est difficile de voir des fratries se déchirer. Il faut imaginer que tous les parents rêvent d'harmonie entre leurs enfants, frères et sœurs, frères et frères, sœurs et sœurs. Et donc, ça nous donne une image de ce que le père peut souffrir quand il voit que ses enfants ne s'entendent pas. Voilà pourquoi cette exigence. Voilà pourquoi le « va d'abord te réconcilier avec ton frère ». Et là, moi, je pourrais, moi aussi, en tant que père, considérer ton offrande et ta prière comme venant d'un cœur qui n'est plus partagé, mais qui est sincère et qui est entier. C'est exigeant. C'est exigeant, mais c'est à la mesure de l'esprit de vérité qui caractérise notre Dieu. Il ne fait pas semblant, il n'aime pas la demi-mesure. Et puis, c'est d'abord important pour notre propre équilibre, pour notre bien-être. Je vous lis quelques lignes d'un livre où il est question de ce qu'a vécu Corrie ten Boom, qui a été dans un camp de concentration à Ravensbrück et dont la sœur a aussi été torturée. Et elle se retrouve devant cet homme qui vient la voir très longtemps après. Et en fait, je sais que Dieu m'a pardonné toutes les cruautés que j'ai commises à Ravensbrück, mais j'aimerais l'entendre aussi de votre bouche. C'est ça que demande l'officier nazi, l'ex-officier nazi à Corrie ten Boom. Et voilà ce que répond Corrie ten Boom. « Mais, écrit-elle, je savais bien qu'il fallait que je lui pardonne. Le message du pardon de Dieu s'accompagne en effet d'une condition, que nous pardonnions à ceux qui nous ont blessés. Je priais en silence, Jésus aide-moi. Bien sûr, je peux lever la main, ça j'en suis encore capable. Mais c'est à toi de me donner l'amour. C'est ainsi que, d'un geste raide et mécanique, je posais une main de bois dans celle qui m'était tendue. Et il se produisit à cet instant quelque chose d'incroyable. Je sentis un courant naître dans mon épaule, traverser mon bras, et jaillir dans nos mains serrées. Puis cette chaleur guérissante sembla se répandre dans tout mon être et mes yeux s'emplirent de larmes. Je vous pardonne, frère, de tout mon cœur. Vous imaginez une relation de tortionnaire à torturé. Et je pense que nous aurons des relations comme nous aurons cette situation en Ukraine dans les mois et les années à venir. Comment rétablir une relation tellement abîmée, tellement faite de souffrance ? Un pardon demandé, un pardon qui est difficile, un pardon apparemment impossible, mais donné malgré tout. Et vous avez vu que la relation entre frères et sœurs redevient possible. Alors en conclusion, ce matin, oui, on peut dire que pardonner, c'est difficile. C'est parfois un chemin douloureux pour l'offenseur comme pour l'offensé. Et le mouvement de cet ex-officier nazi est aussi difficile sans doute que celui qu'a fait Corrie ten Boom. Mais en pardonnant, nous l'avons vu, nous imitons tout simplement notre Dieu, incroyable modèle. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ce que Jésus a encore la force de dire jusqu'au bout de l'injustice subie dans la crucifixion. En pardonnant, nous savons aussi que nous ne faisons que traduire à toute petite échelle, comme une image en réduction, le pardon que nous avons nous-mêmes reçu. Et alors, pardonner chaque fois, c'est de notre part un réel témoignage de reconnaissance pour notre propre vie, comme un écho. Et puis, en pardonnant, nous savons aussi que nous expérimentons une manière de vivre qui n'a pas d'équivalent. Dieu nous pardonne si nous pardonnons, et ça fait de nous des hommes et des femmes responsables, qui savent à quelles conditions se situe la plénitude de leur relation avec Dieu. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence pour laisser retentir en nous